Mais saint il sera, et il le sait, parce que le lent travail de sa conversion se poursuit par un coup subi, inexplicable. Il est déjà un objet de scandale. Cela fait partie de cette étrange vocation. Comme il fallait le prévoir, il tomba malade. Le froid humide avait raison des plus robustes. François, dont la santé avait toujours été fragile, ne résista pas. Les poumons furent atteints. Déjà un an achevait de s'écouler depuis son incarcération. La jeunesse passait, mais les geôles de Pérouse ne s'ouvraient pas. Ce fut alors qu'une organisation charitable qui s'occupait des prisonniers malades obtint que François fût élargi contre rançon. Son père fit le nécessaire une fois de plus, et François regagna Assise. Il avait 22 ans. Première désillusion. Après le cauchemar de la prison, le retour à la maison familiale dut paraître doux à François et réconfortante l'affection dont l'entoura sa mère. Plus vivifiante que tout, la liberté. Mais cette liberté, que pouvait-il en faire? Il était malade et très malade, tuberculeux après ses mois de captivité. Et puis, le souvenir de ceux qu'il avait laissés en prison le visitait sans cesse, comme celui des amis morts dans la boucherie de Colestrada. Les négociations de paix commençaient, disait-on, mais ne rendaient pas la vie à ces absents-là. Les soins qu'il reçut finirent à la longue par lui redonner un peu de force. Appuyé sur une canne, il put faire le tour de la maison, la reconnaître. Certes, rien n'avait changé autour de lui. Mais ce n'était plus le roi de la jeunesse qui se promenait de pièce en pièce, et le changement n'était pas du tout entier physique. Peut-être François se sentait-il vieilli par la souffrance et désabusé. Le printemps s'annonçait, avec son irrésistible appel à la joie. Ce moment de l'année, on ne peut pas le rêver plus beau qu'à Ombry. Et dès que cela lui fut possible, François put se risquer à faire quelques pas dans la campagne, presque à la porte de la maison, au bout de la rue. À quel enchantement il s'attendait. Gagnant un endroit d'où il pouvait voir toute la plaine jusqu'à Pérouse, le damier des champs et des vergers, les étangs qui miroitaient et les méandres du Teschio sous les jeux du soleil, il s'arrêta et regarda tristement ce paysage qui lui était cher. Si belle que fut la nature, elle ne le touchait plus. Par un phénomène étrange, l'amoureux de la lumière, des prés tout en nuances délicates, des bois d'un vert encore timide, connut la désolation de l'indifférence. L'homme intérieur exigeait quelque chose de plus que le monde visible ne lui donnait ce jour-là. Il était déçu. Pourquoi ? Il dut se le demander de retour dans sa chambre. Mais le travail que Dieu fait en nous échappe à l'analyse. Simplement, on ne sait pas. Ce qui avait du goût n'en a plus. On se déprend du monde et de soi. Une sorte de langueur s'empare de l'âme. Peut-être la faiblesse du corps y est-elle pour quelque chose, et l'obsession des horreurs d'une guerre inutile, perdue. François, convalescent, demandait encore des soins qu'on lui prodiguait. Sa mère par amour, son père pour des motifs probablement moins nobles. Dans sa tête pleine de calculs, l'avenir du magasin dépendait de la santé de son fils aîné. Il avait versé la forte somme pour le tirer de prison. Il voulait à tout prix remettre sur pied le garnement, car c'était ainsi qu'il continuait à le voir. Angelo était encore trop jeune. Avec le tour que prenaient les événements, François devenait de plus en plus intéressant. Il y avait une place à prendre, soit dans le monde des affaires, soit dans le monde des seigneurs, là où les rêves du père rejoignaient bizarrement.